Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Dans son discours devant la population à Lubumbashi, mercredi 12 mai, le président de la République a réaffirmé que l'enseignement est gratuit pour les enfants. Par ailleurs, il a dit qu'il fera en sorte qu'on arrive avec la gratuité jusqu'à l'université. Entre-temps, à Kinshasa, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a initié une série de rencontres avec les partenaires de l'éducation pour la mise en application effective de la gratuité de l'enseignement. Quelle analyse faire du processus de gratuité en cours et que faut-il pour que cette vision du chef de l'État se matérialise totalement? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir. Et nous recevons dans cette émission Jean Bosco Pouna, il est secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles catholiques Sénécat en sigle. Il est aussi porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Bonsoir Monsieur Jean Bosco Pouna.
Oui, bonsoir.
Fabrice Ngabo, il est chercheur et consultant en fiscalité et finances. Bonsoir Monsieur Fabrice Ngabo.
Bonsoir Monsieur le journaliste.
Et lui, il est le professeur Jean-Claude Kilumbay, député provincial et cadre du parti politique IDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Je pense qu'il va, il n'est pas encore là, mais il va nous rejoindre. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Comme nous le disions dans les sommaires, le chef de l'État était à Lubumbashi hier mercredi dans la soirée. S'adressant à la population à la tribune dressée pour la circonstance à la grande place de la Poste, Félix Tshisekedi a rappelé aux Lushois sa promesse de rétablir la paix sur tous les territoires nationaux, y compris dans la ville qui préfère. Par ailleurs, le chef de l'État a promis que les efforts relatifs à la gratuité de l'enseignement de base qui concerne tous les enfants vont se poursuivre jusqu'à ce que cette gratuité englobe même les études universitaires. On écoute dans cet extrait proposé par Pélé Kipelamondo.
Je vous avais fait la promesse quand j'étais venu ici en campagne et après quand je fais des discours, j'ai dit que je restaurerai la paix sur tout le Congo. Partout, même ici à Lubumbashi, j'ai appris qu'il y a la violence. Ce n'est peut-être pas comme dans le Nord Kivu et en Ituri, mais la violence est là. Cette violence aussi va se terminer. Vous avez vu qu'à Kinshasa, nos enfants Kuluna, nous avons commencé à les conscientiser. Nous les prenons et les envoyons à Kanyamakassese. Là, ils reçoivent une formation sur l'agriculture. Ils vont commencer à produire en vue de servir leur pays. C'est comme ça que nous irons petit à petit jusqu'à développer notre pays. L'enseignement est gratuit pour tous les petits-enfants de l'éducation des bases. Ça va aller jusqu'à ce que, si Dieu nous aide, nous appliquions la gratuité jusqu'à l'université.
Merci à vous, Pélé Kipelamondo, pour la traduction. Jean Bosco Pouna, je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles catholiques Sénécat en sigle. Vous êtes aussi porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Le processus de la gratuité évoqué dans ces reportages que nous venons d'écouter a été enclenché depuis plus d'une année. Et s'il faut faire l'état des lieux de cette gratuité à ces jours, qu'est-ce qu'on peut dire?
Bon, merci pour la parole que vous nous accordez. S'il faut faire une évaluation de la gratuité à ce jour, il faut déjà dire que la gratuité a fonctionné avec beaucoup de difficultés, mais comme nous pouvons bien le comprendre, une réforme de ce genre ne peut pas manquer de difficultés, ne peut pas manquer d'entraves. Mais ce qui est important et essentiel, c'est que cette gratuité a survécu, elle est là. Elle va devoir se consolider. Il est vrai qu'il y a beaucoup de défis qu'on doit relever, et ce sont des défis que le gouvernement, que nous tous nous avions attendus, doit relever, parce que les enseignants ont beaucoup attendu. Maintenant que le gouvernement est là, nous avons un nouveau ministre, eh bien, nous sommes fondés de croire que beaucoup de problèmes, beaucoup de défis auxquels la gratuité est confrontée vont devoir être relevés. Parmi les défis, il faut dire quand même que il y a des questions très 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 importantes, notamment liées aux infrastructures. Vous savez qu'aujourd'hui, les ratios enseignants-élèves n'est pas respecté. Les ratios que nous avons, c'est les ratios de 45-50 élèves. Aujourd'hui, nous avons dépassé les ratios et donc l'enseignant éprouve beaucoup de difficultés dans les salles de classe. Il faut absolument, pour commencer l'année qui viendra, il faut absolument que cette question trouve un début de solution. Il y a également la question relative au besoin de recruter de nouveaux enseignants. Il est vrai que la gratuité nous a amené près de 3 millions dans nos classes, de nouveaux élèves. Il faut absolument pallier à la situation en recrutant de nouveaux enseignants. Nous parlons bien des enseignants et non des faux enseignants. Il y a également la question relative à la condition sociale des enseignants. Le barème qui est payé aujourd'hui, c'est un barème dérisoire, un barème de misère. Il faut absolument que la promesse du chef de l'État, parce que nous lui avons demandé, même le premier ministre y est revenu sur les paliers de Mboudi, il faut absolument que le gouvernement envisage des efforts pour que ce palier soit payé. Mais enfin, la suppression des zones salariales, on ne peut pas comprendre que les enseignants qui sont dans l'arrière-pays continuent à subir cette discrimination en violation même de l'article 13 de la Constitution. Il faut absolument que tous les enseignants aient le même salaire et que l'on puisse également renforcer les mesures d'encadrement de la gratuité. Donc, tant de défis devant nous, mais la volonté du chef de l'État est là et je crois que nous tous, nous devons soutenir cette volonté pour que finalement, ça puisse servir à nos enfants, finalement, ça servira à notre population. Donc la gratuité fait beaucoup de bien à nos élèves, mais il y a encore beaucoup de défis par rapport à la vie sociale des enseignants. Et ça, en tout cas, maintenant que nous avons le gouvernement, il faudrait bien que le gouvernement y pense.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a réaffirmé sa volonté, vous venez même de le dire, hein, sa volonté de consolider ces processus. Il a même promis qu'il va l'étendre à l'université. Monsieur Jean Bosco Pouna, vous êtes enseignant, vous palpez les réalités, n'est-ce pas, sur le terrain. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu d'abord faire l'évaluation de ces processus en cours au niveau de l'enseignement des bases avant d'envisager une éventuelle extension au niveau universitaire?
Bon, il faut dire déjà que l'extension de la gratuité jusqu'au niveau universitaire, c'est le vœu de notre population, c'est une demande sociale. Parce que n'oubliez pas qu'avant 1993, eh bien, l'enseignement préscolaire, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur et universitaire, tout était pris en charge par l'État congolais. Et donc, c'est une expérience que nous avons vécue pendant de longues années, nous tous, vous et moi. Nous avons étudié au frais de l'État. D'où est venue cette histoire des prises en charge des enseignants par les ménages pauvres comme mode de gestion et de fonctionnement des écoles? Nous tous, nous savons qu'il y avait une cause. Donc, par rapport à l'évaluation, nous avons posé les problèmes au chef de l'État et lorsque le Premier ministre nous avait reçus, nous avons réitéré il faut absolument que nous puissions passer à l'évaluation de cette gratuité 2 ans après, pour que nous puissions tirer les leçons, comprendre quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces, et puis envisager l'avenir. Je crois qu'il est important que rapidement que cette évaluation soit faite, comme ça, ça va nous permettre de pouvoir réagir les tirs là où il le faut. Mais par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'université, les professeurs d'université, ils n'ont pas quand même les salaires que les enseignants du primaire et du secondaire ont. Les professeurs d'université, que je sache, un professeur ordinaire, eh bien, il a autour de 2000 plats. C'est un peu le montant qu'ils ont. Alors, si nous partageons, nous tous, la même misère, parce que le pays est confronté aux difficultés, nous ne pouvons pas quand même comprendre que plus de 20 ans après, que les professeurs d'université continuent à dépendre des parents, des ménages pauvres. Donc je crois que l'option prise par le chef de l'État, c'est une très bonne option, mais maintenant il faut d'abord procéder à l'évaluation de la gratuité au niveau primaire et secondaire pour que nous puissions tirer des bonnes leçons et envisager ce qu'il est en train de vouloir faire au niveau de l'université.
Voilà, vous affirmez que l'extension de la gratuité à l'université, c'est les souhaits, n'est-ce pas, de la population, mais dans les conditions du moment, peut-on dire que c'est une promesse réaliste ou simple discours politique?
Non, ça n'est pas un discours politique. Regardez, personne n'avait donné la chance au président de la République lorsqu'il a lancé la gratuité au niveau de l'enseignement primaire. Ça, c'est constitutionnel. Mais la loi cadre a relevé l'application de la gratuité jusqu'en 7e et 8e année. Ça, c'est la loi cadre de l'enseignement national. la loi cadre de 2014, mais le gouvernement a compris que si l'on ne pouvait considérer que l'enseignement primaire, eh bien, il y aura une catégorie d'élèves qui seront discriminés. Entendez, vous avez un élève qui termine la sixième année primaire et qui n'est pas capable de faire la septième, huitième année, ou encore celui qui termine la huitième année qui n'est pas capable de pouvoir continuer les humanités. Donc le gouvernement a vu juste pour étendre cette gratuité jusqu'au niveau secondaire, et c'est fait aujourd'hui. Nous sommes en train de nous battre pour le consolider. En tant que partenaires, nous nous sommes véritablement battus pour que nous puissions consolider cette gratuité. Donc nous pensons que la demande sociale va être respectée. C'est une chance d'ailleurs que le président de la République comprenne cela, parce que c'est vrai, il y a des difficultés, mais le pays ne manque pas de moyens. Regardez tout ce qui a été pillé, dilapidé au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Eh bien, si on rationalisait les choses, eh bien, jusqu'à l'université, la gratuité va véritablement se matérialiser. Je vous ai dit ici en début d'émission que avant 1993, tout était à la charge de l'État. C'est après les pillages qu'au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, on a commencé avec la prise en charge des enseignants par les parents, qui était un palliatif, et cela est allé jusqu'à l'université. Mais aujourd'hui, on doit prendre le courage de pouvoir rompre avec un système qui fait beaucoup de dégâts à notre jeunesse. Même ces professeurs d'université, ils ne forment plus correctement les étudiants avec ce système de prise en charge des enseignants par les parents. Nous pensons que dans une même volonté, nous tous, nous devrons aller pour démettre un système défaillant. C'est un système défaillant et qui n'est même pas accepté par tous les instruments juridiques nationaux et internationaux que nous avons.
Le nouveau ministre de l'EPST vient de décider d'augmenter de 20% les frais de fonctionnement des écoles. Comment vous accueillez cette décision, M. Jean Bosco Pounin?
Bon, il faut déjà dire que la décision du ministre, que je sache, c'est la décision du gouvernement. Le gouvernement, de manière unilatérale, a levé cette option, sans pour autant avoir un quitus de tous les partenaires. Je crois que c'est un premier faux pas du ministre de l'enseignement, primaire, secondaire et technique. En tout cas, nous, c'est un conseil en tant que banque syndicale, en tant que partenaire, que nous lui donnons. Des décisions graves de ce genre, il est toujours important et même obligé de pouvoir consulter tous les partenaires. Parce que lorsque vous prenez 20%, 20% c'est pour une école qui recevait 90 000 francs, parce qu'il y a des écoles qui n'ont que 90 000 francs de frais de fonctionnement, et vous comprenez que l'école a éprouvé beaucoup de difficultés pour fonctionner. Lorsque vous les rehaussez à 20%, ça signifie que c'est 18 000 francs d'ajout pour cette école. Mais est-ce que par rapport aux priorités de la gratuité, c'est comme ça qu'on devrait le faire? Nous pensons que cette manière de faire n'est pas bonne. Il faut absolument mettre tous les partenaires autour pour que nous puissions évaluer et que nous voyons quelles sont les priorités pour le moment, afin de pouvoir continuer à donner un contenu à cette gratuité. Je crois que les 20% ne vont pas résoudre les problèmes, et en plus, il faut dire qu'on va commencer par Kinshasa pour la province. Nous, au niveau du Sinecat et même au niveau de la synergie, au niveau de tous les enseignants, c'est une approche qui n'est pas recevable. Donc, c'est vrai, nous saluons, mais nous pensons qu'on aurait pu réunir tous les partenaires et être dans un élan participatif, dégager l'option qu'on devrait prendre par rapport à ça.
Les 20% ne vont pas résoudre les problèmes comme vous venez de le dire. Combien vous auriez proposé si on vous avait associé au processus de la prise des décisions?
Écoutez, nous avons un cahier des charges qui va être déposé demain auprès de son excellence, monsieur le ministre de l'EPST. Le cahier des charges revient sur les grandes préoccupations de l'enseignement et sur les grandes préoccupations de la gratuité. Pour lever l'option, parce que nous avons des écoles qui perçoivent 90 000 francs, il y en a qui reçoivent 200 000, il y en a qui reçoivent 400 000, et il y en a d'autres qui reçoivent 2 millions de francs congolais, les écoles dites spéciales. Il est important que nous puissions nous mettre autour d'une table, dans une commission paritaire interministérielle, par exemple, pour lever les options durables. Parce que cette option-là, elle n'est pas durable et ça va continuer à poser des problèmes dans notre système d'enseignement.
Merci, nous vous gardons encore dans cette émission. Fabrice Ngabo, vous êtes chercheur et consultant en fiscalité et finances. Quelle analyse vous faites du processus de la gratuité en cours au niveau de l'enseignement des bases?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la question. Je tiens d'abord à noter que cette question, elle est éminemment financière, hein, financière, budgétaire, parce que vous l'aurez constaté que sans ressources, il est impossible de pouvoir envisager des réformes qui puissent réussir. Ceci dit, je note que la gratuité de l'enseignement, c'est véritablement un choix qui me semble irrévocable. Et donc, ça vient un peu ici résoudre la problématique des millions d'enfants congolais qui étaient désespérés, n'ayant pas de moyens, de ressources financières, ces enfants, bien qu'imbus de talent, ces enfants étaient exclus du système éducatif. Et donc, c'est une initiative qui doit être soutenue par tout le monde, mais il s'est fait que, au regard des 2 ans ou du temps que la mise en application a pris, on constate que l'initiative a quand même été caractérisée par certaines faiblesses. Alors, s'il faut qu'on effectue un diagnostic sérieux, un état des lieux du processus de la gratuité de l'enseignement du début à ce jour, il faut commencer par recenser certaines causes, n'est-ce pas, qui ont empêché, n'est-ce pas, que la gratuité ne soit pas véritablement une réussite. Et de mon point de vue, il me semble qu'il y a 3 causes majeures. La première, c'est la non-maîtrise des effectifs des enseignants et des écoles. Comme vous le savez, jusqu'au moment où nous tenons cette émission, la question des écoles fictives, la question des enseignants fictifs, la question des faux enseignants, comme le premier intervenant l'a dit, cette question n'est pas encore jusque-là résolue. Voyez-vous ? Alors pourquoi elle n'est pas résolue ? Parce que les solutions qui sont envisagées, c'est souvent des solutions soit manuel ou alors les solutions maison, et qui n'ont pas apporté de solution. J'ai même participé à une conférence cette semaine où une entreprise congolaise a présenté une solution numérique qui a été développée pour pouvoir recenser, si vous voulez bien, identifier à nouveau, n'est-ce pas, les enseignants de façon particulière et dans l'ensemble les agents cadres de la fonction publique. Et on a constaté que si dans la solution qui est envisagée par le gouvernement, on y met une dose un peu, je vais dire, numérique, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut arriver finalement à démystifier cette question qui n'a que trop duré. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, il me semble que c'est une faible capacité d'accueil des infrastructures, notamment les salles de classe. Comment voulez-vous qu'un seul enseignant puisse donner cours à une classe qui a plus de 100 élèves, alors que vous irez trouver certains qui sont assis à même le sol? Et donc, les conditions de l'enseignement deviennent un tout petit peu difficiles et cela peut influer même sur la qualité de l'enseignement. C'est bien d'envisager la gratuité de l'enseignement, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'on s'assure que cette gratuité va permettre à la République de former des enfants qui vont effectivement relever les défis du pays demain et non pas former en termes de nombre et non de la qualité. Mais à cette question de la qualité, ça ajoute aussi un aspect très important. Assez souvent, on n'y prête pas attention, mais ce sont les écoles techniques, M. Guy Maté. J'ai été dans une école cette semaine, je constate que vous avez par exemple des enfants qui évoluent dans une école technique, mais qui n'ont aucun matériel, aucune machine, ainsi de suite. Donc les options techniques, les enseignements se font de façon théorique, et comme conséquence, on aura fini le programme, et vous avez des enfants qui ne savent résoudre aucun problème dans la vie. Donc ça, c'est un problème sérieux. La troisième cause, il me semble que, bon, évidemment, tout ce dont nous parlons ici tourne autour de l'insuffisance des ressources financières pour la gratuité de l'enseignement. Donc, toute la problématique, c'est là. Toute la réflexion, c'est là.
Oui, vous avez évoqué 3 causes, notamment la non-maîtrise des effectifs des enseignants et des écoles. Vous avez parlé de la faible capacité d'accueil, et là, c'est lié aux écoles, et vous avez parlé des ressources financières. On sait que toutes ces conditions ne sont pas réunies aujourd'hui, mais apparemment, les processus poursuivent, comme on dit, son petit bonhomme de chemin.
C'est vrai, le processus continue. Et il faut qu'on note que le développement ou le changement, c'est un processus. Le changement ne peut pas se décréter comme, je vais dire, ça ne peut pas tomber comme je vais dans la sauce. C'est un processus. Un processus qui sûrement a été planifié. Il y a des faiblesses, les forces, mais ce qui est important, c'est de voir comment les faiblesses peuvent être transformées en force. Et donc, c'est toute la réflexion. Alors, les 3 causes s'inscrivent dans la première approche de mon analyse, et la seconde approche, c'est une approche éminemment politique, n'est-ce pas ? Hier, la gratuité a posé beaucoup de problèmes parce qu'il y a eu absence de sincérité dans les chefs des acteurs ou si vous voulez bien des regroupements politiques qui ont constitué la coalition que nous avons appelée FCC-CACH hier. Mais aujourd'hui, vous constatez qu'il y a de plus en plus la sincérité dans les chefs et tous les acteurs qui participent dans ce que nous appelons aujourd'hui Union Sacrée. Et c'est une bonne chose, une chose à saluer. Je pense que le ministre de l'EPC aujourd'hui, il est du PPRD.
Il est de l'UDPS. L'actuel ministre de l'EPC, il est de l'UDPS.
Excusez-moi, voulais-je dire UDPS. Et donc, vous sentez qu'il y a une certaine implication, n'est-ce pas, un certain dévouement pour pouvoir atteindre les résultats. Il n'y a pas que l'UDPS. Vous voyez aussi le regroupement AFDC allié, dont tous les ministres, ma chère professeur Modeste Vassil-Koubou, dont tous les ministres semblent vraiment impliqués, chacun dans son secteur, et c'est une chose à saluer. C'est-à-dire, dans un groupe, si les acteurs partagent la même vision, il y a une possibilité de pouvoir atteindre les résultats. Mais quand les acteurs évoluent chacun dans son sens, ça pose problème comme un peu le temps passé. Et donc moi, je pense qu'il y a lieu de saluer l'initiative. Nous avons déjà là la volonté du président de la République. Là, qui a la volonté peut. Mais ce qui est important maintenant, c'est de voir de façon stratégique, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour mobiliser davantage les ressources. C'est vrai qu'on a fait qu'il y a des initiatives qui vont dans tous les sens. Il y en a qui organisent même la collecte des ressources pour pouvoir appuyer la gratuité de l'enseignement. Il y en a qui vont dans tous les sens. Mais on se dit, est-ce que c'est comme cela qu'on doit accompagner une initiative si réellement elle a été planifiée? Je pense que techniquement, il y a lieu de relever ces faiblesses-là et de voir comment on va finalement mettre fin à cette histoire des partenaires pour appuyer la gratuité de l'enseignement. L'État, nous avons un État souverain. Nous avons des potentiels fiscaux suffisants que nous devons exploiter pour permettre aux institutions d'être à la hauteur des responsabilités. Il ne faudrait pas que nous continuions dans ce sens-là où nous attendons tous des partenaires extérieurs, mais nous devons un moment nous assumer en tant qu'État, et c'est cela même le sens des responsabilités publiques. Donc moi ici, je lance ici un appel aussi bien au chef de l'État qu'à tous les membres du gouvernement de repenser les stratégies qu'il faut pour qu'on puisse mobiliser les ressources par l'État, j'insiste bien, et non pas par les privés, les ressources financières de manière à ce que l'État, notamment les ministères de l'enseignement primaire, soient à la hauteur de cette responsabilité qui va dans le sens de l'intérêt supérieur de la population.
Étendre cette gratuité à l'université comme le souhaite le chef de l'État, pourrait-il être possible? À quelles conditions, Fabrice Ngabou?
Possible. J'ai même suivi d'ailleurs des critiques qui sont allées dans tous les sens. Il y en a qui ont dit, même aux États-Unis, l'enseignement universitaire n'est pas gratuit, comment seulement arrêter? Moi, je me dis, écoutez, nous pouvons amorcer des réformes qui peuvent même être suivies par la suite par d'autres nations. Ça, c'est d'abord une vision, une réflexion qu'il a lancée. Il appartient maintenant aux autres de soutenir. Maintenant, moi, je pense que c'est réaliste. C'est réaliste si les moyens suivent. Écoutez, il n'y a aucune politique qui peut être envisagée s'il n'y a pas des réflexions qui vont dans le sens de mobiliser les moyens par rapport à ça. Moi, je crois que cette initiative, elle est réaliste si et seulement si les moyens suivent. Et nous n'avons cessé de le rappeler à qui veut l'entendre. Nous avons organisé beaucoup d'émissions à ce sujet-là, que la seule manière de pouvoir mobiliser les ressources passe par la voie classique. J'étais l'homme le plus heureux de voir le Premier ministre l'autre fois revenir sur cette stratégie qu'il faut pour pouvoir mobiliser les ressources. Il a parlé également de réformes fiscales. Reste maintenant à savoir quel est le contenu que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, attribue au concept réforme fiscale. Sinon, il y a des chercheurs qui ont développé beaucoup de réformes fiscales qui peuvent être utilisées maintenant. J'en fais partie.
Nous avons annoncé le professeur Jean-Claude Tiloumaï qui devait participer à cette émission, mais on n'arrive toujours pas à les joindre. Lui, il est député provincial et cadre du parti politique UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Alors, nous allons passer au point de vue des auditeurs, hein, parce que les auditeurs ont aussi émis leur point de vue par rapport à ce sujet. Et à cet effet, nous allons demander à M. Jean Bosco Pouna de pouvoir réagir à cette réflexion qui vient des Loubéraux au Nord Kivu.
Jean-Baptiste Mbembe Mbale, qui vous en fait la partie de Moubana en territoire de Loubert. La promesse du chef de l'État est une promesse d'apparence en évoquant la gratuité au secondaire et à l'université. Celle de l'école de base n'étant encore pas matérialisée à 65% selon mes estimations. Inquiète, mais sur quoi l'annonce par le ministre sectoriel Tony Mwamba de la majoration des frais de fonctionnement des écoles primaires à hauteur de plus ou moins de 5%, alors que depuis Bellurette. Non seulement les ONU souffrent, végètent, mais aussi les pays attendent impatiemment le troisième et le deuxième palier de leur salaire dérisoire. Pour ma part, le chef de l'État allait d'abord rassurer dans son meeting toutes les ONU de leur paye et en préciser le moins.
Voilà, Jean Bosco Pouna, cet auditeur touche là aux revendications qui reviennent souvent chez les enseignants. Comment vous réagissez à cette réflexion?
Bon, il faut dire que l'auditeur qui vient parler n'a pas tort. Et nous tous qui prenons la parole, nous convenons, nous acceptons la gratuité à des problèmes et confrontée à beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il a été rappelé ici que c'est un choix. Et le choix, c'est le choix voulu par notre population. Écoutez, les problèmes relatifs à la condition sociale des enseignants, je crois que c'est un problème qui nous tient à cœur en tant que syndicat. Parce qu'il faut absolument que celui qui travaille puisse gagner honorablement sa vie. C'est constitutionnel et même dans les enseignements internationaux, c'est reconnu. Mais est-ce que nous allons tout transformer en un clin d'œil? Ça sera difficile. On a l'approche progressive. Je crois que dans cette approche-là, nous allons résoudre tous ces problèmes. Si aujourd'hui l'argent est mobilisé et canalisé, arrive dans l'escarcelle de l'État, dans les caisses de l'État, dans les trésors publics, il y a moyen de pouvoir redistribuer équitablement. C'est l'article 58 de la Constitution. Cela n'avait pas été le cas pendant bien d'années, pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles autorités, la volonté est là. Mais on ne peut pas occulter les difficultés auxquelles fait face la gratuité de l'enseignement. Bon, prenons la logique de l'université. Lorsque l'enfant termine les humanités, il a étudié sous mode gratuité, et donc à l'université, il doit continuer à payer les frais académiques. Eh bien, vous comprenez que, quelque part, c'est une barrière. C'est même une discrimination. Parce que l'enfant qui a commencé à l'école primaire, qui est allé au secondaire, mais il doit poursuivre l'université si nous voulons véritablement que nous puissions prendre la relève. Donc nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait des barrières. Si ce n'est pas cette année, l'année prochaine ou les années qui vont venir, eh bien il faut absolument que même à l'université, que la gratuité puisse se matérialiser. Parce que les professeurs d'université, les chefs des travaux, les assistants, sont pris en charge par l'État congolais. Et c'est ce qui est plus consistant que la prime que les étudiants versent auprès des professeurs. Vous allez également comprendre quand les chefs de l'État parlent des syllabus. Mais les syllabus, c'était des supports à des fins mercantiles. L'élève, l'étudiant qui a payé les syllabus, c'est celui-là qui réussit. Celui qui n'a pas acheté les syllabus, c'est celui-là qui échoue. Mais regardez la misère des parents. Donc nous pensons qu'il faut aller jusqu'à l'université, mais on doit aller progressivement. D'abord, on doit résoudre les problèmes que nous avons au niveau de l'enseignement secondaire et professionnel et technique, mais il faut ne pas occulter, cette gratuité peut aller jusque-là. On nous parle de la qualité, et bien sûr, mais il y a 5 ans, quelle a été la qualité de l'enseignement que nous dispensions? Maintenant, nous devons mobiliser les efforts pour mobiliser les moyens, parce que sans financement public de l'éducation, eh bien, nous ne pouvons pas parler d'une éducation publique de qualité. Mais il ne faut pas, surtout pas, revenir à l'ancien système qui a vraiment dérangé l'enseignement donné à nos enfants parce que les familles pauvres ne pouvaient pas accéder à l'éducation.
Oui, parce que vous avez évoqué cette question de la qualité de l'enseignement. On rappelle que récemment, il y a de cela 2 jours, Mgr Ambongo a été reçu par l'actuel ministre de l'EPST et au sortir de cette rencontre, Mgr Ambongo a tout en réitérant, n'est-ce pas, la volonté de l'Église catholique à soutenir ces processus de gratuité. Il a exprimé des craintes, hein, et notamment que cette gratuité ne puisse pas préjudicier la qualité de l'enseignement. Et est-ce que ces craintes de Mgr Ambongo sont-elles fondées, Monsieur Jean Bosco Pouna?
Les craintes sont fondées, mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons parce que l'ancien système était plus mauvais que le système actuel? Donc je crois que c'est une très bonne chose que maintenant il y a une conscience collective qui arrive à naître au niveau de tous les partenaires. Apparemment, nous commençons maintenant à parler le même langage, que ce soit les pouvoirs organisateurs de l'enseignement ou encore les co-gestionnaires du système d'enseignement. Maintenant, nous devons contraindre le gouvernement qui est le seul pouvoir régalien de l'éducation à pouvoir donner les moyens. Nous tous, nous avons vu comment le ministre Bakonga a dilapidé l'argent. Et donc, il y a de l'argent. Il faut absolument qu'on puisse rationaliser la gestion et nous pensons que la qualité va venir. Nous avons parlé ici des infrastructures. Il faut absolument que le gouvernement mette rapidement un plan de rénovation des écoles, de réhabilitation des écoles, de construction même des nouvelles écoles pour que nous puissions désengorger les classes qui sont pléthoriques. Nous pensons que ça, le gouvernement peut bien le faire à condition qu'il mette en place un plan qui puisse permettre que dans un bref délai, que nous puissions résoudre ce problème de pléthore de classes.
Fabrice Ngabo, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi dans les Haut-Katanga.
Femme Kaboulo depuis Lubumbashi, il y a des promesses que nous pouvons accepter et d'autres non. L'université n'a pas commencé ici au Congo. Partout au monde, l'enseignement universitaire n'est pas gratuit. Comment le président de la République peut faire de telles promesses? C'est un langage politique et il veut que la population puisse lui faire confiance pour qu'on puisse lui donner un deuxième mandat en 2023. Il doit d'abord lutter pour l'application effective et surtout penser comment construire d'autres écoles pour que cette gratuité puisse être bénéfique à tout le monde. Au cas contraire, il y aura toujours des difficultés.
Fabrice Ngabo.
Je viens de suivre l'auditeur. Écoutez, il ne s'agit pas ici d'un simple discours politique. Soit qu'il prête gratuitement au chef de l'État des intentions d'ailleurs de façon gratuite, pour la simple et bonne raison que nous ne l'avons pas suivi, n'avons pas entendu dire qu'il va mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement au niveau supérieur et universitaire. C'est une réflexion qu'il a lancée. C'est un souhait qu'il a émis et dire que si sous d'autres cieux, où d'ailleurs l'université a commencé, l'enseignement n'est pas gratuit et ici chez nous comment sera gratuit, moi je pense qu'on ne peut pas s'arrêter de réfléchir parce que ailleurs les choses ne se font pas. Moi je pense que nous pouvons initier ici chez nous des réformes mais qui peuvent être au fil du temps copiées par les autres nations. Pourquoi lui l'auditeur ne veut-il pas qu'un jour on dise que la gratuité de l'enseignement au niveau universitaire a commencé en RDC. Pourquoi on dira toujours, on sera à l'aise qu'on dise toujours que les bonnes réformes, les grandes réformes de l'humanité ont commencé ailleurs. Donc, je crois que c'est une pensée même philosophique qu'il a lancée et bon, les conséquences doivent être assumées. Encore que, n'étant pas une décision, n'ayant pas été budgétisée au cours de cette année, je ne sais pas comment il peut penser que le chef de l'État il veut tout simplement séduire la population pour qu'on lui redonne un nouveau mandat en 2023. Cela dit, toute l'approche repose sur la planification. Hein? Comment la gratuité de l'enseignement a été planifiée? C'est cela, à mon sens, la bonne question. Parce que on devrait avoir en principe, des objectifs clairs. Des objectifs clairs qui nous disent, durant les 5 ans, au cours de la première année, voici, on devait faire accéder autant d'enfants à l'école et on devait faire suivre l'accroissement des infrastructures scolaires de telle hauteur. Voilà, on devait mobiliser autant, ainsi de suite. Et le deuxième aspect, c'est la stratégie. Quelle stratégie devait-elle être menée pour pouvoir consacrer les et cette belle initiative. Hein? Troisièmement, c'est les moyens. Vous aurez constaté que c'est toutes nos interventions. La problématique des moyens revient.
Merci.
Donc, on ne peut pas s'en passer.
Monsieur Jean Bosco Pouna, à votre avis, que faut-il pour que cette vision du chef de l'État puisse se matérialiser totalement?
Bon, la vision du chef de l'État, je crois que c'est la vision de notre population. Les parents sont fatigués à continuer à prendre en charge les professeurs d'université, docteurs. Je crois que même à leur niveau, nous avons déjà commencé une conscientisation au niveau des professeurs d'université. Par rapport à la dignité, ce sont des choses que progressivement, vraiment, que nous devons abandonner. Le pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui regorge beaucoup de moyens. Et ce qui nous avait manqué, c'est la bonne foi des acteurs politiques. Nous savons, non seulement les ministres des PST, mais dans tous les ministères, vous avez suivi des scandales de gestion. Et donc, je crois que maintenant qu'on est dans une nouvelle vision, les choses vont aller pour le mieux. Comment y arriver? Mais il faut passer par la conscientisation de tout un peuple, parce que déjà, que ce soit les étudiants, les parents et d'autres acteurs, nous sommes d'avis qu'il faut absolument que cet enseignement-là puisse être gratuit pour que ça puisse bénéficier à tous les enfants congolais. J'ai également relevé ici qu'avant 1993, les prenaient en charge l'enseignement de la maternelle jusqu'à l'université. Et donc nous sommes capables de pouvoir réitérer cet exploit-là. Comment le gouvernement arrivait-il? Eh bien, en 1960, on avait un budget de 30% et tout l'argent était dans la caisse de l'État. Souvenez-vous, c'est Kassavubu qui gérait le pays. Ça veut dire qu'il y avait une gestion orthodoxe, il y avait une certaine moralité dans la gestion de la chose publique. Ce qui a manqué pendant toutes les années que nous avons vécu. Maintenant qu'il y a une nouvelle vision, je crois que nous devrons nous-mêmes nous accorder cette chance-là en tant que peuple. Lorsqu'un acteur politique, fût-il le président de la République, les garants, nous dit que non, on peut aller vers là, et la population doit commencer à se rédiger, je crois que ça sera un tort. C'est possible pour que nous allions jusque-là, mais dans une approche progressive. Et je crois que dans cette approche-là, nous pouvons résoudre tous ces problèmes. Il ne faut pas ignorer que l'enfant de l'enseignant, les enfants des enseignants au niveau primaire secondaire, ils ne payent pas les frais. Et donc le manque à gagner, mais même à l'université, les professeurs d'université qui doivent scolariser leurs enfants en payant les frais, aujourd'hui ils ne payent rien au niveau secondaire. Et donc nous tous, nous devons être sur le même pied d'égalité. Sinon alors, nous envoyons nos enfants à l'université et ils doivent débourser les frais. Mais par contre, eux, quand ils envoient leurs enfants au niveau primaire, secondaire, ils ne payent rien. C'est une injustice, c'est une discrimination. Et les professeurs d'université doivent être les premiers à comprendre cela.
Jean Bosco Pouna.
Je crois que le chef de l'État est sur la bonne voie.
Oui, Jean Bosco Pouna, cette question de la non-maîtrise des effectifs des enseignants et des écoles qui a été relevée ici par Fabrice Ngabo, c'est une question épineuse. Et à votre avis, pourquoi ça n'a jamais réussi? Ce processus-là n'a jamais réussi?
Mais simplement parce que nous avions eu des acteurs politiques, des dirigeants qui étaient contre le peuple. Parce que regardez, le ministre de la fonction publique qui emploie tous les agents et fonctionnaires de l'État ne maîtrise pas les effectifs. Le ministre de l'EPST et le CECOP, vous avez vu le scandale à Akala. Il n'a rien maîtrisé. On ne maîtrise pas les effectifs. On crée plutôt des effectifs fictifs pour se faire de l'argent. Bon, vous comprenez que c'était la mauvaise foi des gouvernants. Maintenant que nous avons foi par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir, eh bien, nous avons l'impression que, et nous devons être exigeants en tant que peuple, pour que les nouveaux gouvernants ne se comportent pas comme hier.
Merci.
C'est tout à fait normal que nous puissions nous lever, nous mettre debout, revendiquer davantage pour que l'ascenseur nous revienne en tant que peuple.
Merci. Fabrice Ngabo, à votre avis aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette vision de chef de l'État, la vision de la gratuité de l'enseignement, puisse se matérialiser totalement?
Monsieur Guy Maté, cette vision étant bonne, la première solution passe d'abord par la redynamisation de la justice, qui doit pouvoir contribuer à la lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics, les coulages des recettes. La population dans son ensemble contribue au financement des dépenses publiques, mais il y a une catégorie, une frange de la population, quelques dirigeants qui s'approprient les efforts nationaux. Et donc la justice doit être mise en contribution pour faire échec à tous ces citoyens qui veulent résister à ce processus et des changements. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est de revoir l'acheminement ou le convoi ou le processus de paiement des enseignants. Vous le savez, il y a des coins de la République où il n'y a pas de banque, des banques commerciales. Vous avez même suivi ce matin comment une information a circulé, comment il y a des enseignants qui s'indignent pour le fait qu'un prêtre, c'est pas moi, un autre agent payeur, se serait volatilisé avec les salaires des enseignants. Donc moi je pense qu'il faut repenser, la possibilité ou la voie de paiement des enseignants dans les coins où les banques commerciales n'existent pas.
Alors, vous avez aussi conseillé que l'on ne puisse pas continuer à tabler sur les partenaires extérieurs. S'il ne faut plus compter sur les partenaires extérieurs, quels sont les efforts qui peuvent être fournis au niveau interne pour que nous soyons en mesure, n'est-ce pas, de mobiliser les fonds nécessaires pour financer cette gratuité, hein. Vous savez que les experts de l'éducation qui avaient travaillé sur cette question avaient avancé les chiffres d'environ 3 milliards de dollars américains par an pour financer la gratuité. Quels sont les efforts qui peuvent être faits au niveau interne pour arriver à relever ces défis?
Effectivement, M. Guy Maté, on doit arrêter de penser, d'attendre les ressources des partenaires extérieurs. Mais écoutez, dites-moi, où est-ce que les États-Unis, par exemple, trouvent plus de 100 milliards qu'ils consacrent à l'armée, à leur sécurité? Les autres nations, où est-ce qu'ils trouvent les ressources pour pouvoir financer leur développement? Est-ce qu'eux aussi attendent les partenaires extérieurs? Mais non, moi je pense qu'on ne va pas ici inventer la roue. Tous les États du monde trouvent leurs ressources pour financer leur développement dans leur système fiscal respectif. Pourquoi nous avons abandonné notre système fiscal? Pourquoi nous avons laissé les pratiques fiscales illégales envahir le système fiscal congolais? Il faut, j'insiste, je persiste, il faut impérieusement des réformes fiscales pour que finalement l'État puisse s'assumer en tant que tel. Il faudrait que nous remettions l'État dans ses responsabilités et nous départir et ne pas continuer à compter sur tous les partenaires qui du reste,
merci,
comme vous le savez. Quand on vient avec des appuis et des aides, on a toujours des conditionnalités, on a toujours des pesanteurs et qui ne vous permettent pas d'évoluer.
Merci.
Moi, je pense que toute la réflexion se repose sur ce que nous avons fait de notre système fiscal, la responsabilité de l'État. Et si le Premier ministre, chef du gouvernement, il a parlé de réforme fiscale, moi, j'attends le Premier ministre par rapport au contenu de ce concept-là.
Merci.
Et nous pensons qu'il n'y a que de cette manière-là on peut pouvoir amener l'État congolais vers ses responsabilités et finalement redonner le sourire aux Congolais.
Merci, nous sommes à la fin de l'émission. Monsieur Jean Bosco Pouna, nous allons devoir conclure. C'est quoi votre conclusion?
La conclusion, c'est que la République démocratique du Congo, c'est un potentiel fiscal, un potentiel minier, un potentiel forestier, un potentiel énergétique. Mais que dire? Comment nous pouvons continuer à nous lamenter que nous ne sommes pas capables de mobiliser 3 milliards l'année pour financer notre gratuité? Il nous faut absolument aller vers cet élan-là. C'est une vision qui conforte toute notre population. Et c'est comme ça que nous allons devoir aider notre jeunesse. C'est comme ça que nous allons devoir léguer les vrais outils à notre jeunesse pour prendre la relève demain. Et donc, au niveau du Sinecat et au niveau de la synergie, nous en appelons à une commission paritaire interministérielle qui doit rapidement se tenir pour évaluer le devoir de la gratuité, tirer les leçons et envisager l'avenir.
Merci, merci Monsieur Fabrice Ngabo. Votre conclusion?
Je pense que la gratuité de l'enseignement, c'est un choix irrévocable et la volonté du chef de l'État est là, elle va pouvoir nous permettre d'atteindre les résultats. Néanmoins, la problématique de ressources qui semble ne pas être résolue, je vous dis que ça doit passer absolument par les réformes. Et vous êtes au courant des travaux que nous avions effectués qui pouvaient permettre, en termes de recherche sur les réformes fiscales importantes, qui devaient permettre à la République de réaliser, de mobiliser entre 8 milliards et 12 milliards l'an. Je pense qu'il est temps que les travaux que nous avions faits puissent servir la République et nous sommes restés disponibles pour pouvoir accompagner la nation par rapport à sa vision en tant que ce pays-là sur lequel les espoirs aussi bien de la population, même toute l'Afrique, reposent.
Merci à vous, Fabrice Ngabo et M. Jean Bosco Pouna, pour avoir accepté de participer à cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci aussi à Willem Lungamba, qui était la technique, et à Dona Madimba, qui a réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sabujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.